Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler du bio. Le bio ou la bio, on aimerait l'avoir chaque jour dans notre assiette et dans nos champs. On parle bien de l'agriculture biologique à opposer à l'agriculture dite conventionnelle. Alors, si le bio c'est la vie, on doit comprendre que le conventionnel c'est le contraire, la mort. Mort des sols, mort de la paysannerie, mort de la biodiversité, mort des paysages, mort de cancer. Quand ce n'est pas synonyme d'eau non potable, de dépendance aux importations, de dépendance à l'agrochimie, au pétrole pour les transports, au gaz pour les engrais, quand ce n'est pas synonyme de désertification rurale, de pauvreté des agriculteurs. Bref, le conventionnel, c'est plutôt le problème que la solution. L'agriculture biologique, c'est l'agriculture usuelle, celle qui nous vient de la nuit des temps, celle qui a 10 000 ans d'expérience, celle qui a créé des milliers de variétés adaptées à la multitude de sols, de climats, de cuisines, une agriculture adaptée à l'usage parcimonieux d'énergie. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture bio n'utilise pas d'intrants de synthèse, mais des produits que l'on trouve dans la nature, donc des produits qui peuvent trouver dans la nature de quoi les éliminer, les limiter, les supporter. A contrario, l'agriculture conventionnelle utilise des intrants de synthèse, que ce soit les engrais ou les pesticides. Et qu'on soit clair, ce sont des poisons, et pas ciblés. Par exemple, d'après Vincent Bretagnol du CNRS, seulement 5 grains de maïs enrobés de néonicotinoïdes tuent une perdrix, 5 grains de blé tuent une alouette. Et contrairement à ce que l'on peut entendre, la consommation en France de pesticides n'a pas régressé, au contraire, elle a cru de 7% depuis le Grenelle de l'environnement en 2009. Alors certains affirmaient que le conventionnel, c'est ce qui permet de nourrir la population, sinon il y aurait des famines. C'est mal comprendre l'histoire et l'actualité. Dans l'histoire, les mauvaises récoltes ont eu bon dos. La famine, la plupart du temps, c'est un fait social, la conséquence d'un processus politique, social et économique. D'autant plus de nos jours où notre capacité à stocker et acheminer des denrées sur de longues distances rend le manque de nourriture totalement impossible, donc volontaire. La famine n'est donc pas traitée par un type d'agriculture, mais par un partage juste ou injuste des ressources. D'autres de dire que ce sont les rendements de l'agriculture conventionnelle qui permettent aujourd'hui de manger à sa faim. Pour répondre à cette affirmation, on peut regarder sur le temps long. Il y a deux générations, pour boire, il suffisait de creuser un puits, aller à la source ou attendre que l'eau tombe du ciel. Aujourd'hui, aucun de ces moyens, rudimentaires mais rudement efficaces, ne permet d'accéder à de l'eau potable. PFAS, nitrates, bactéries fécales, microplastiques, pesticides, on en trouve partout. Il y a deux générations, il suffisait de planter des arbres ou des légumes pour se nourrir. Le sol, les mycorhizes, les vers de terre, les pollinisateurs, bref, la nature faisait le gros du travail. Maintenant, une grande partie des terres agricoles sont mortes. Il faut ajouter des engrais, des pesticides, les rares plantes que l'on a conservées, sélectionnées suivant le seul critère du rendement immédiat, sont fragiles et malades et doivent être traitées aux pesticides et autres fongicides. La population d'insectes a diminué de 75% en 30 ans en Allemagne. Environ 40% de toutes les espèces d'insectes volants dans le monde sont menacées d'extinction. Alors même que les insectes, en tant que pollinisateurs, sont cruciaux pour notre production alimentaire. Si les rendements ont temporairement explosé, un rapport du Sénat de 2019 montre, notamment sur le blé, que ces rendements commencent déjà à décroître. D'ailleurs, rien ne dit que l'amélioration du rendement était due à l'utilisation de pesticides. D'autant plus qu'une étude de Le Chenet et Dessin montre justement que l'on pourrait diminuer de 40% la quantité de pesticides utilisés sans toucher au rendement. En 2021, le CNRS a publié « Une agriculture biologique pour nourrir l'Europe en 2050 ». Le scénario envisagé repose sur trois leviers. Le premier appliquerait un changement de régime alimentaire, avec une consommation moindre de produits animaux, ce qui permettrait de limiter l'élevage hors sol et de supprimer les importations d'aliments pour le bétail. Attention, il est bien question ici de réduire la quantité de viande produite, d'élevage industriel. Il n'est pas question de stopper toute consommation, ni d'ailleurs de vilipender le véganisme. Le deuxième levier de l'étude propose l'application des principes de l'agroécologie avec la généralisation de rotations de cultures longues et diversifiées, intégrant des légumineuses fixatrices d'azote, ce qui permettrait de se passer des engrais azotés de synthèse comme des pesticides. Le dernier levier consisterait à rapprocher culture et élevage, souvent déconnectés et concentrés dans des régions ultra spécialisées, pour un recyclage optimal des déjections animales. Selon ce scénario, il serait donc possible de renforcer l'autonomie de l'Europe, de nourrir la population attendue en 2050, d'exporter encore des céréales vers les pays qui en auraient encore besoin, et surtout de diminuer largement la pollution des eaux et des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture. Donc non, l'agriculture conventionnelle, ce n'est pas ce qui permet à l'humanité de se nourrir, au contraire, c'est ce qui met en péril notre capacité à nous nourrir. Et oui, l'agroécologie, l'agriculture bio, est capable de nous nourrir et en plus elle a le mérite de nous maintenir en bonne santé, nous et les générations à venir. Tout cela n'est qu'une question de volonté, de nous, acteurs et consommateurs, mais aussi la volonté des élus que nous choisissons, des entreprises pour lesquelles nous travaillons.
Mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger ?
Pomme, pomme, pomme de terre, pomme, pomme, pomme de terre.
Nous venons d'entendre une publicité que vous aurez peut-être déjà entendue sur différentes antennes. Mais au fait, les patates, ça ne coûte pas grand-chose, non ? Alors, comment certains auraient visiblement assez d'argent pour payer des publicitaires ? Ceci signifie donc que des acteurs de la filière se font assez de marge pour les financer. Bref, c'est autant d'argent qui ne va pas dans les poches des petits producteurs. Encore une fois, il y a une nébuleuse de profiteurs qui se nourrissent sur leur dos. Coopérateurs, négoces, conditionnements, courtiers, commerce spécialisé, grande surface. Mais au fait, qui est à l'origine de cette publicité ? Il s'agit du Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre, composé de représentants de l'ensemble de la filière qui aspirent notamment au développement de l'export. Si l'on creuse un peu plus, dans le Collège des producteurs, on trouve l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre qui s'enorgueillit d'être le premier exportateur mondial de pommes de terre, 43% de la production par étranger, la FELCOP, une entité qui salue l'orientation donnée par la nouvelle Commission européenne, celle-là même qui met en place le Mercosur, et enfin la Coordination Rurale, un syndicat proche de l'extrême droite qui se plaint de ne pas pouvoir utiliser autant de pesticides et autres poisons que les Brésiliens, dont le président invite à faire la peau aux écolos. Bref, tout sauf des acteurs de la paysannerie, tout sauf des acteurs qui prônent le respect du vivant, tout sauf la fin du colonialisme. Et voilà, tout ce beau monde caché derrière une publicité désuète à la première vue, comme si de rien n'était. Sous couvert de promouvoir la consommation de patates, on entend ainsi s'exprimer l'extrême droite et l'agro-industrie, les promoteurs d'exportation de denrées qui tuent les paysans d'ici ou d'ailleurs. Au passage, vous connaissez le montant astronomique dépensé pour nous faire manger n'importe quoi ? L'étude « Les coûts cachés de l'alimentation » évalue à 5,5 milliards d'euros de dépenses en France pour promouvoir ces produits de piètre qualité. 5,5 milliards, c'est 1000 fois plus que le budget communication du Programme National Nutrition Santé. Vous savez, quand l'État est incapable de légiférer pour interdire les heures de pub de McDonald's ou autre, il fait passer de temps en temps manger 5 fruits et légumes par jour. Plus contradictoire et cynique, tu meurs. Bon, quand on pense bio, on pense souvent aux petits agriculteurs du coin. Sauf que si vous vous rendez dans un supermarché, vous trouverez des rayons bio qui contiennent des quantités astronomiques de denrées identiques, quel que soit le lieu où vous vous rendrez. Ces produits sont passés dans le grand n'importe quoi du marché international. Ce n'est pas le petit paysan du coin qui fournira le sarrasin en quantité suffisante pour approvisionner une usine qui sort ses galettes sous emballage plastique. Il y aura de multiples intermédiaires, des négociants, des spéculateurs et tout au bout de la chaîne, certainement un céréalier mal payé. Et cela ne se limite pas aux produits transformés ou ultra transformés. Une carotte bio peut très bien être un produit industriel qui est produit sous des kilomètres de serre plastique dans du sable excavé de la carrière du coin. L'agriculture bio-industrielle, c'est certes moins pire que le conventionnel industriel, mais reste industriel. Dans son film sur la paille, Éric Guéret décrit la misère industrielle au travers des pérégrinations d'Olivier Tanguy qui a repris une exploitation conventionnelle de porc, l'a adaptée au bio sans changer vraiment de fond en comble le modèle. On y découvre un exploitant qui, avec son unique salarié agricole, s'occupe de faire vivre une usine à taille inhumaine de production de porc bio. Les cochons, inséminés artificiellement, vivent en plein air. Ils voient le défilé des vétérinaires, des conseillers, des auditeurs, du camion de livraison d'aliments ou de la bétaillère. Quand on parle d'élevage en plein air, il s'agit juste d'être aux quatre vents et de voir la lumière du jour. Mais nulle trace de verdure. Le cochon est toujours entre quatre murs de béton. Certes, c'est mieux que les caillebotis dans le noir avec 0,8 mètres carrés par bête, mais ça n'a rien à voir avec l'image que l'on pourrait se faire du porc gascon qui gambade dans les prés. Et puis le producteur, seul au milieu de cette usine monstrueuse, il est à la merci du marché, des décisions politiques et économiques des uns et des autres. Il produit la nourriture et tout le monde se sert sous son dos. Le banquier, l'assureur, le négociant d'aliments, le négociant de la distribution, le vendeur de machines, les laboratoires. L'agriculteur prend tous les risques, toute la pression, pour au final y mettre de sa poche et ne rien gagner. Bref, un pigeon, mais bio. Manger des produits bio serait plus cher. Oui, en se cantonnant à la stricte comparaison entre bio et conventionnel. Sauf qu'en général, les consommateurs de bio achètent moins de produits transformés. Or, la transformation coûte extrêmement cher. De manière générale, manger bio à partir de produits bruts ne coûte pas plus cher que de manger des pesticides dans des aliments transformés, qui en plus sont de qualité nutritionnelle moindre de par les traitements subis lors de la transformation. Et on aura pris plaisir à les cuisiner. Et puis, les études montrent que les produits bio sont significativement plus de qualité nutritionnelle que les aliments conventionnels. D'ailleurs, la peau des végétaux est souvent riche en molécules bonnes pour la santé. En bio, on peut la manger, alors qu'en conventionnel, on retiendra qu'elle contient des pesticides et qu'il faut donc l'éliminer. Mais certains de dire qu'une part de la population ne peut accéder aux produits bio, car ils croulent sous le travail et doivent donc se tourner vers des aliments transformés ou parce que leur budget est tellement restreint qu'ils ne peuvent fournir un effort supplémentaire de 10-20% sur l'achat des produits. Avant toute chose, précisons que si cette précarité existe, le problème structurel consiste à mal rémunérer ces populations et à les exploiter. En soi, ce n'est pas un problème d'accès aux produits sains, mais un problème d'inégalité systémique de notre société. Néanmoins, essayons de traiter cet argument, ça coûte plus cher. Il se trouve que la réponse est aisée. L'agriculture conventionnelle coûte bien plus cher que l'agriculture bio-industrielle, qui elle-même coûte plus cher que l'agriculture bio-paysanne. Faut-il encore ne pas se cantonner au prix affiché, mais s'intéresser aux coûts cachés par l'agro-industrie et les politiques actuelles ? Commençons par les subventions. Selon le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, 20% des agriculteurs français possèdent 52% des terres agricoles et touchent 51% des subventions européennes. Et ces inégalités sont encore plus visibles au niveau européen. 20% des agriculteurs possèdent 83% des terres agricoles et perçoivent donc 81% des aides. Seulement 10% des surfaces sont allouées au bio, bien plus représentées chez les petits exploitants que chez les grands. Ce sont donc les structures agro-industrielles qui touchent le pactole. Sauf que cet argent ne sort pas de nulle part, il est financé par nos impôts, taxes et autres. 54 milliards à l'échelle européenne, 9 milliards en France. Et ces milliards vont principalement financer les gros producteurs. Pour résumer, quand on achète en grande surface un produit de l'agro-industrie, on le paye en fait pour la seconde fois. Ensuite, il y a les coûts assumés par les collectivités. Quand l'agro-industrie pollue les nappes d'eau et les nuages, rendant l'eau impropre à la consommation, bourrée de nitrates et de pesticides, il faut la traiter. Et là, c'est encore le contribuable qui paye l'addition. Ça fait quand même la troisième fois que l'on paye dans cette histoire. Et ces produits toxiques que l'agro-industrie utilise à tout va, ils détruisent le vivant qui normalement fournit des services gratuits, pollinisation, engrais, rétention d'eau, régulation de la température, régulation des insectes et autres nuisibles, fabrication d'humus et autres engrais, alimentation des plantes par la mycorhize, travail du sol par le ver de terre. Une fois disparus, il faut les remplacer. Quatrième passage à la caisse. Et ces produits avec tête de mort dessus, ils provoquent des cancers, des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, et autres petits plaisirs comme l'infertilité. Et ça coûte combien ça ? 27 milliards d'euros par an, 20% du déficit de la France, c'est le coût en croissance constante des cancers et des maladies neurodégénératives pour la France, première cause de dépenses de la sécurité sociale. Un rapport de la Cour des comptes de 2024 précise, le coût moyen d'un traitement anticancéreux est de 14 580 euros par an pour un cancer actif. Pour certains médicaments, le coût est encore plus élevé. Il atteint 72 000 euros par patient et par an pour certaines immunothérapies. La perfusion unique de certaines cellules coûte entre 300 000 et 400 000 euros. Si les dépenses de médicaments anticancéreux poursuivent le rythme de progression constaté entre 2018 et 2022, elle passerait de 2,4 milliards d'euros en 2022 à 7 milliards en 2028. Allez, cinquième tour à la caisse pour notre jambon Herta ou autre. Sans compter bien entendu les coûts de diabète, de l'obésité, bref de la malnutrition. Et sans compter que mourir prématurément ou souffrir de ces maux n'a pas de prix. Sans compter que le suicide tous les deux jours d'un agriculteur, leur mal-être au quotidien, cela n'a pas de prix non plus. Enfin, l'agro-industrie, c'est l'exploitation des producteurs, des travailleurs de la transformation industrielle, de la grande distribution. Ces derniers ne sont pas connus pour être vertueux, produisent du travail précaire quand ils ne dégraissent pas leurs effectifs sur l'autel de la rentabilité. Alors, ça coûte vraiment si cher de manger bio, local et paysan, de générer de l'emploi et du plaisir? Par rapport à l'agro-industrie, sa malbouffe, ses inégalités et ses poisons. Et d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué une chose dans ce descriptif d'écoute? Quand on attrape un cancer, on pourrait avoir tendance à vouloir quitter la consommation des produits qui l'ont provoqué. Malheureusement, en étant malade, on devient une source de revenus conséquents pour l'industrie pharmaceutique et médicale. Scanners, biopsies, antiviraux, chimiothérapie, Bayer Monsanto et compagnie, ceux-là même qui nous ont empoisonnés, reviennent dans la course. Décidément, ils nous collent à la peau. On a du mal à les quitter et ils nous font payer l'addition pour, au final, nous rendre malades et tristes. Quand on parle du bio, on pense potentiellement au fait qu'il n'y a pas de pesticides. Alors, mon potager, il est bio ? Non, car je n'ai pas de label. Pour être considéré bio, il faut impérativement être labellisé. En France, il n'existe que deux labels bio officiels. L'Eurofeuille, c'est-à-dire le bio à l'échelle européenne, et le label AB. Par contre, d'autres labels viennent les compléter, qui valident des critères additionnels. On l'a vu, la bio ne veut pas dire artisanal. Ce peut tout à fait être un produit industriel, aux marges rognées, sans pesticides de synthèse certes, mais de mauvaise qualité. Des labels comme Nature et Progrès viennent mettre des conditions supplémentaires au mode de production. Ainsi, pour obtenir la mention Nature et Progrès, il faut globalement avoir un modèle économique et agricole que l'on qualifierait de paysan. Par exemple, un agneau sous mention Nature et Progrès sera de race locale et rustique, sans abattage à la naissance, reproduit de manière naturelle et non par insémination artificielle, sans écornage, obligatoirement mené au pâturage lorsque les conditions climatiques le permettent, sans ensilage. Bref, en prodiguant une attention particulière aux animaux, le label protège aussi le paysan. Mais au fait, histoire de questionner la situation, pourquoi a-t-on besoin de vérifier, de valider le fait de produire naturellement ? Pourquoi appelle-t-on produits standards les produits mauvais pour la santé dont la production met en péril l'habitabilité de la Terre ? La réponse à la seconde question paraît simple. À l'heure des fake news, de l'utilisation orwellienne des mots qui en détournent le sens, changer le sens des mots, c'est changer la pensée, imposer la conception du monde qui nous entoure. En attribuant le qualificatif standard à de la nourriture empoisonnée, on la légitime. Quant à la question de savoir pourquoi on a besoin de donner un label à un produit, bio, éthique ou autre d'ailleurs, c'est parce que nous sommes éloignés de la production de ce produit, qu'il y a besoin de vous rassurer sur ses valeurs. S'il était fabriqué chez nous ou chez le voisin, nous aurions un regard direct sur la manière de procéder, sur les conditions de vie du producteur. Dans un modèle agricole basé sur la proximité, nul besoin de ces labels qui, en plus, coûtent cher à administrer, ce qui participe à l'augmentation des coûts du bio et leur moindre compétitivité face au conventionnel. On l'aura compris, se nourrir bio, c'est ne pas s'intoxiquer soi-même, ne pas avaler de poison. D'ailleurs, c'est souvent la raison évoquée pour l'achat de ce type de produit. Mais il serait dommage d'oublier que manger bio, c'est aussi ne pas intoxiquer le producteur et laisser une terre habitable aux générations futures. En suivant ce principe, on pourrait se questionner sur la pertinence de retrouver dans les rayons bio des grandes surfaces ou des magasins spécialisés des produits ultra transformés, des produits transformés souvent trop gras, trop sucrés, des produits dont la transformation a dénaturé les nutriments, des produits issus d'une alimentation à taille industrielle qui finissent emballés dans un plastique dont on se passerait bien aussi. Autre argument souvent utilisé par l'agro-industrie, sans elle, on ne pourrait pas se nourrir à sa faim. Au contraire, elle n'a fait qu'augmenter la productivité mesurée avec le petit bout de la lorgnette. Elle a surtout permis de réduire le nombre de personnes dans les champs, les remplaçant par des producteurs surexploités et des machines. Nous produisons aujourd'hui bien plus que nous consommons. Selon les estimations de l'ONU, nous jetons chaque jour 1 milliard de repas. Selon le Muséum d'Histoire Naturelle, si on constate dans le bio en moyenne 20% de rendement en moins par rapport au conventionnel, il existe une très forte disparité. Les rendements sont quasi identiques en maraîchage et arboriculture. Les rendements sont parfois même bien meilleurs en bio qu'avec les intrants, surtout dans les pays restés avec une agriculture paysanne. Et puis ce sont des rendements calculés instantanément. L'agriculture intensive a largement contribué à tuer l'agriculture paysanne et donc l'autosuffisance des peuples à se nourrir eux-mêmes, notamment via l'invasion de produits exportés et subventionnés. D'autre part, il faut prendre encore une fois le problème dans son ensemble. Une bonne part de nos surfaces sont dédiées à nourrir des animaux d'élevage, en majorité dans des conditions déplorables aussi bien pour les animaux que pour les humains qui s'en occupent. Et la surconsommation de ces denrées animales à laquelle nous assistons coûte cher à la santé. De plus, il faut 2,5 kg à 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. Un rendement pour le moins inefficace, d'autant plus que nous utilisons désormais des surfaces arables pour les nourrir là où, avant, ces animaux valorisaient des surfaces difficilement exploitables, fortes pentes, terrains pauvres, forêts. Il s'agit donc de réallouer une part significative de ces surfaces à la production directe de nourriture pour les humains. En conclusion de ces études, nous avons largement assez pour satisfaire tout le monde avec un système agroécologique. Tout n'est finalement qu'une question de volonté et de distribution égalitaire des ressources. En France, environ 10% de la surface agricole est inscrite en bio. Et la stratégie nationale s'est fixée comme objectif 18% à l'horizon 2027, d'ici un an. À se demander s'il y a une seule personne qui croit que les moyens sont mis pour y parvenir et que ne sont pas juste des chiffres pour amuser le passant. Pour résumer toute cette mascarade, manger bio, c'est protéger la vie des agriculteurs, accessoirement la nôtre, mais aussi assurer une capacité aux générations futures de se nourrir. Mais ce n'est pas suffisant pour assurer une juste rémunération et une vie digne aux agriculteurs, ni aux autres travailleurs. Il est indispensable, si ce n'est urgent, de sortir de l'agro-industrie pour revenir à une paysannerie assumée, dotée d'outils de connaissances qui en facilitent la tâche. Enfin, contrairement aux allégations de l'agro-industrie, le bio coûte moins cher que le conventionnel quand on agrège l'ensemble des coûts de production, mais aussi de santé, sociaux et environnementaux. Seulement, les industriels ont tout intérêt à ségréguer ces coûts. Cela leur permet de continuer de manger à tous les râteliers. Au final, l'agroécologie, c'est bon pour les papilles, le moral, la santé et la planète. Tout le contraire de l'agro-industrie.
On veut du green.
Ah, ce cher sénateur Duplomb, l'homme qui n'entend pas bien quand on dit non. Il avait déjà fait une proposition de loi pour ses copains dont une partie a été jugée non constitutionnelle. Non content de sa performance de 2025, de son aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire, le sénateur a remis le couvert en 2026 et propose de nouveau de permettre l'usage de produits toxiques en espérant que cette fois-ci le Conseil constitutionnel ne retoquera pas sa proposition directement inspirée par la FNECA, syndicat pro-agro-industrie, pro-pesticides. Ah, il faut dire que Laurent Duplomb, la FNSEA et l'agro-industrie, il y a baigné. Il a été tour à tour représentant de la FNSEA, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, président régional du groupe laitier Sodial et membre du conseil de surveillance de la marque Candia. Notre cher sénateur Duplomb crache sur les petits exploitants, soi-disant des profiteurs d'aide. Sauf qu'une étude du média Bon Pote démontre que M. Duplomb aurait perçu 1 million d'euros de subventions depuis 2020. Dont une partie vient de la région, une région présidée par un copain à lui, qu'accessoirement il conseille sur les questions agricoles. Un conseiller qui finalement promeut son propre modèle agricole, voire légifère en faveur de ce modèle, quand ce n'est pas précisément en faveur de sa propre exploitation. Il exploiterait 180 hectares de terre, 100 hectares de plus que la moyenne des exploitants laitiers, et ferait ainsi partie des fermes les 1% les plus aidées, pour un nombre de salariés extrêmement restreint. Merci le robot de traite subventionné. Bref, tout sauf le portrait de l'exploitant moyen français qu'il revendique être. Encore un adepte de l'inversion des sens de mots et de la nouvelle langue. Mais au moins, cet harceleur législatif est assez transparent sur ses intentions.
N'écoutons pas les merveilles et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'est quand même étonnant, les sénateurs et députés tergiversent le droit opposable à disposer de soins palliatifs, mais une majorité vote sans scrupule des lois telles que la loi du plomb, signant ainsi la condamnation à attraper des cancers, à accroître les cas d'Alzheimer, à accroître l'infertilité des couples, à rendre les eaux non potables. Un choix économique ou cynique ? C'est pour le moins un choix paradoxal. C'était les Croissants décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. À la prochaine !
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.